Question, interrogation. On va faire comme ça de droite à gauche, monsieur.
Alors c'est peut-être parce que j'ai pas très bien compris, mais c'est pour savoir un petit peu quelle était au sein de la finance islamique la place de l'assurance, et en particulier la place de l'assurance vie. L'assurance vie est-elle islamico-compatible?
D'accord. Alors, la place...
Parce que, bon, c'est intéressant, et pas si vous avez...
C'est une excellente question, on va enlever la presse parce que ça ne sert plus à rien. Alors, je vais répondre vite et lentement. Alors, je vais répondre vite en vous disant que c'est 1,3% de 2000 milliards. Donc, c'est 22 milliards de dollars de collecte, donc de chiffre d'affaires par an. C'est ridicule.
Ridicule.
Là-dedans, la vie, c'est à peu près... 30%.
D'accord.
L'épargne des musulmans, elle est dirigée d'abord vers la banque, moins vers l'assurance. Il n'y a pas d'incitation fiscale, parce que dans la plupart de ces pays, en Malaisie, il n'y a pas d'incitation fiscale, et dans le Golfe, il n'y a pas de fiscalité du tout. Alors, comment ça marche? C'est l'autre question, comment ça marche la finance islamique, le takaful? La grande différence entre une compagnie d'assurance et une compagnie de takaful, c'est la suivante. Dans une compagnie de takaful, en fait, vous avez deux personnes morales. Vous avez l'opérateur et vous avez le fonds. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant qu'assuré, quand j'abonde le fonds ici, je ne paye pas une prime. Je fais un don. Et ce don, ces dons vont me donner des droits, c'est-à-dire le droit d'être couvert en cas de sinistre. Alors, l'opérateur, lui, il apporte ses fonds propres. Et ça, ça lui donne un pool. Ce pool est co-investi dans trois classes d'actifs. Le marché monétaire, les markets, les soukouks qui sont l'équivalent des obligations, et bien évidemment l'immo. Qu'est-ce qu'on aime l'immo? On adore la pierre. Et ça, ça prend la forme de Islamic Real Estate Investment Trust, c'est des OPCI, Sharia Compliant. Alors, et là, il y a une deuxième différence entre la finance, l'assurance conventionnelle et l'assurance islamique, c'est que rendement technique plus rendement financier, rendement technique, c'est prime moins sinistre. D'accord ? C'est le rendement d'un compagnie d'assurance. Rendement financier, c'est ce que mes actifs du pool m'ont ramené. Net des charges opérationnelles, il faut comprendre rendement net. Il y a deux états de la nature. Supérieur à zéro, inférieur à zéro. Alors, vous allez voir, c'est quand même pas mal foutu. Si l'état de la nature du résultat technique et résultat financier est positif, c'est ce qui se passe, on partage. X%, 1 moins X%. 1 moins 1, pour enlever les parenthèses, X%. D'accord ? Donc si j'ai un rendement positif, je vais faire du cashback. Donc j'assure ma voiture, 200 euros. Bah, à la fin de l'année, je ne vais pas recevoir de boni ni de mani. Je vais payer mes 200 euros pour l'année qui suit, moins en cash, le rendement de tout le pool en mutualiste. Et puis ce qui va rester, on va distribuer à l'opérateur pour bonne gestion. Si le rendement est négatif, donc là, l'année suivante, le pool ici, le don des assurés, il est déficitaire, et bien les opérateurs vont faire un prêt à taux zéro. Parce qu'ils ont mal géré. Mal calculé, les actuaires n'ont pas fait leur travail. Alors c'est totalement mutualiste comme opération. Alors ça rend la chose un peu compliquée, donc un peu difficile à marketer, mais... Ce qui va faire la différence avec le Maroc, parce que l'assurance est obligatoire au Maroc. Il y a plein de gens qui vont aller vers les compagnies de takaful, elles vont être agréées avant la fin de l'année. Il y en aura au moins deux, au maximum cinq. On vient juste de finir la formation certifiant des régulateurs de l'ACAPS, qui est le régulateur des assureurs. Monsieur.
Merci, et puis je tiens à m'excuser, je dois partir dans quelques instants, donc je suis désolé, et j'espère que la question ne va pas vous contrarier.
Non.
Donc, bravo pour l'intervention, brillante, plus qu'intéressante, bankable.
Je sens qu'il y a un mec, Xavier Guézou.
Après, la question est très très simple, c'est que vous faites le constat, que vous ne le faites pas seul, en bonne compagnie. Depuis 10 ans, pourquoi vous-même, vous n'avez pas été créateur de la première banque islamique?
Mais ça fait 10 ans que j'essaye, bien sûr. J'ai fait le tour du monde 4 fois.
En France.
Oui, pour en Europe, parce qu'on a un marché ouvert, 27 pays, on a ce qu'on appelle le marché unique. Et le marché unique, ça veut dire que je peux passeporter, hein, c'est un jargon qu'on a dans notre métier. Si je fabrique un produit financier au Luxembourg, je peux parfaitement le commercialiser en France. Mais en Suisse, c'est pas possible.
D'accord. Le Luxembourg, c'est 400 000 habitants.
Ah non, c'est pas pour les Luxembourgeois.
Le Luxembourg, duché, 400 000 habitants, ils viennent d'acheter, il y a 8 ans, une partie du territoire français pour faire leur université. Donc ils sont 600 000 aujourd'hui.
C'est pas pour leur clientèle.
D'accord, donc c'est pas là, à mon sens, mais vous allez me donner votre avis, que la plus grande communauté musulmane existe. Et dans le besoin.
D'accord. Bah, ce projet...
Alors, la deuxième sous-question.
Allez-y. Puis, après, je vais répondre.
Voilà, moi, je suis représentant de l'État dans un coin, un arrondissement qui s'appelle Dreux. J'ai 7 associations gestionnaires musulmanes. Ça fait 12 ans qu'elles cherchent un financement pour un abattoir.
Vous ne trouverez pas.
Elles ne trouvent pas. Donc, je veux dire, vous avez des idées, on voit la belle superstructure mondiale, les interrelations au Luxembourg, mais ici et maintenant, c'est quoi les réponses?
Très bien, il n'y en a pas pour l'instant. Le projet s'appelle Euris Bank. Alors, ma boîte s'appelle Euris Group, c'est pour vous dire qu'il y a quand même un lien. Et ça fait effectivement 7 ans que je bosse dessus. Encore une fois, je fais le tour du monde. On a demandé d'abord aux banques, les deux premières années, on a demandé à toutes les banques françaises, on dit non. Ensuite, on a demandé à des banques étrangères de venir chez nous, ils nous ont dit non, pour tout un tas de raisons. La crise financière, l'Europe c'est compliqué, il y a plein d'attentats, il y a plein de machins. D'ailleurs, ils ont même peur des attentats. Parce qu'ils se disent, c'est pas nous là-bas, c'est un truc tout bizarre, on veut pas y aller. Donc là, l'idée, c'est de commencer, pas par le bottom-up, mais par le top-down. Donc, notre idée, c'est de créer une banque privée, qui va faire essentiellement de l'asset management, du wealth management. Et quand elle aura prouvé son concept, elle va élargir ses fonds propres, parce que, je vous dis, hein, 1 million de ménages, très rapidement, ça fait, je vous passe les calculs, 250 milliards d'euros de financement à donner. Si j'ai 250 milliards à l'actif, il faut savoir qu'une banque, elle est leveragée à 1 pour 10. Il me faut 25 milliards de fonds propres. Où est-ce que je vais trouver 25 milliards de fonds propres pour capitaliser une banque, pour faire tout ce que vous dites ? Les abattoirs, les clientèles qui veulent de l'hypothécaire. J'arriverai pas à faire du mass market. C'est impossible de faire venir 25 milliards d'un coup pour une banque retail.
Alors, je le comprends sur le plan académique et c'est très clair. Et vraiment bravo. Maintenant, moi, tous les mercredis, sur la place du marché, j'ai la camionnette de la banque Tijara qui s'arrête, qui est une banque marocaine, et qui vient faire la collecte de fonds.
Ouais. Elle n'est pas charia compliant, c'est ça qui est terrible. Mais elle le sera peut-être, Banque Sympa, ils ont une filiale qui s'appelle Banque Sympa.
Il y a un moment, j'aimerais bien que la réalité que vivent nos concitoyens ici et maintenant, elle s'ancre dans l'éthique, des valeurs, la marche à l'évolution, et qu'on ne soit pas dans des réalités différentes. Okay. Pluton, le Japon.
Tout à fait. Alors, une banque islamique, je vais vous dire, ça va prendre beaucoup de temps. Même au Luxembourg, mais avec une banque privée. Et même si on fait une banque privée au Luxembourg, ce n'est pas fait pour vos clients que vous venez de citer. Deux, il y a la fintech. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui même, le 12 mars à midi, on avait rendez-vous avec une chaîne de pizza. Pizza urbaine, pizza fast food. Et le gars a besoin de 2 millions d'euros, mais en islamique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par une plateforme de crowdfunding. Ouais, de peer-to-peer. Donc c'est un conduit, ça ressemble à ça, c'est un conduit, hein, un conduit comme ça, où les financements arrivent. Alors ça peut être des financements conventionnels, ce qui est intéressant c'est que on va approcher des banques, là il y a 5 banques conventionnelles qui ne vont pas le faire frontalement, c'est pas directement aller chez le pizzaiolo, mais qui vont passer par la plateforme en utilisant nos contrats, et ces contrats ici sont attachés une fatwa. Alors fatwa, encore une fois, n'ayez pas peur, c'est juste un avis juridique. Un avis, comme la charia, c'est un sentier, ça c'est un avis, c'est pas très compliqué. Vous savez, l'Arabie du 7e siècle, c'est simple. Hein. Le sentier, l'avis. Je demande à celui qui sait, hein, et puis je creuse mon sentier, c'est pas très compliqué. Donc voilà, c'est tout. Et ces contrats vont être mis à la disposition des banques, et les banques vont dire comme ça, moi je finance ta plateforme. Oulala, moi on m'a donné le contrat il a l'air bien, je finance la plateforme directement. Donc ça on peut le faire, mais on peut le faire qu'au... c'est pas industrialisé. Hein. C'est vraiment de l'artisanat, de l'orfèvrerie, de l'horlogerie suisse, tout ce que vous voulez. Donc c'est long, c'est pénible, c'est coûteux, c'est tout ce que vous voulez. Si vous voulez le faire, on peut le faire. Alors en attendant ça, mais on va parler de Mayotte et de la Réunion. Parce que là-bas, il y a peut-être moyen de faire quelque chose à petite échelle. On en parle dans une seconde.
Vous avez répondu en partie, parce qu'en fait la banque islamique c'est assez compliqué. On a plutôt aujourd'hui des produits islamiques d'une banque conventionnelle.
Ouais.
C'est plutôt ça qu'on a aujourd'hui. Donc c'est la...
Excellente question.
C'est la réalité. Et, j'ai une question sur la... Ce qui pose aussi problématique, parce que... On sait très bien que la question de l'intérêt, de l'usure est interdite en islam. Donc il y a le principe de murabaha. Et le principe de murabaha, aujourd'hui, il est pour le client beaucoup plus désavantageux que la banque traditionnelle qui fixera un taux d'intérêt. Donc la problématique, d'un point de vue éthique, je vous la pose aujourd'hui, comment on peut répondre à
ça? Ça a été le cas dans tous les pays du monde. Les premières générations de murabaha, donc achat et revente, notamment sur l'immobilier, étaient plus chères. C'est plus le cas dans la plupart des pays où la finance islamique a atteint une part de marché supérieure à 20%. Donc il y a une corrélation, il y a une élasticité prix à la part de marché. C'est-à-dire que le prix a tendance à baisser à mesure que la part de marché monte. Alors, en France, si vous allez effectivement chez Bred, à La Réunion, en demandant à Isis 570, notre copain Anas Patel, enfin, financement, c'est sûr que les maturités sont plus courtes et les prix sont plus élevés. Si vous allez chez Banque Chabi, les maturités sont encore plus courtes et les prix sont encore plus élevés. Mais ça vient au fait que la part de marché n'est pas possible. Là, vous avez une économie d'échelle. C'est-à-dire sur des volumes, vous pouvez faire converger le prix vers le prix conventionnel. Mais quand vous avez de tout petits volumes, vous faites des petites séries, forcément le prix est plus important. C'est comme Zara et Dior. Petite série hyper chère, grosse marge. Grosse série, vous comprimez les marges au possible. Alors, dans les pays... prendre des parts de marché. La Malaisie, c'est 25% de parts de marché. Les prix sont quasiment équivalents à ceux de la banque conventionnelle. En Arabie Saoudite, c'est 50% de parts de marché de la finance islamique. La finance islamique est moins chère que la banque conventionnelle. À Dubaï, c'est 35% de parts de marché. Les prix des banques islamiques sont équivalents à celles des banques conventionnelles. Donc, vous voyez que le point d'inflexion, le point d'élasticité maximale, il est entre 25 et 35%. On est autour de 30%. Alors, vous imaginez une part de marché de la finance islamique en France de 30%. Déjà, techniquement, c'est impossible, vous n'avez que 10% de musulmans, ça veut dire que 20% des clientèles musulmanes consomment halal. Alors, théoriquement, oui, on pourrait faire un modèle, mais il faudrait ça pour que la créance hypothécaire, dans meilleurtaux.com, soit dans le top 3, ce qui est peu probable. Mayotte Réunion, monsieur de l'Outre-mer. Si une banque islamique devait voir le jour sur ces deux territoires, à votre avis, ça voudrait dire quoi? Quels seraient les enjeux? Parce que c'est un projet avec le qui est sur la table, à l'heure où on parle. D'ailleurs, on viendra vous voir, si vous le voulez bien.
Bien sûr. Quels seraient les enjeux? Alors, on est quand même sur deux territoires très différents.
Tout à fait.
Territoire nature,
Mayotte, Réunion.
La communauté musulmane, très bien implantée, probablement assez occidentalisée.
Alors, à La Réunion, c'est combien? C'est 15% même pas?
Oui, ouais, c'est ça. Mais
15%.
Visible, paisible.
Bien organisé. Donc, on est là.
Il n'y aura pas probablement les freins au développement que vous évoquiez en France.
Tout à fait. À la condition qu'elle reste à La Réunion et qu'elle ne s'exporte pas en métropole.
Oui, mais en tout cas, pour une installation à La Réunion, enfin, pour une création à La Réunion, il va poser des problèmes.
Ouais. Ils veulent faire les deux, les promoteurs du projet, et là, c'est 95% de musulmans chez les Maorais.
Mais c'est pas le même niveau de vie. Par contre, les enjeux de développement sont
très pauvres.
Donc c'est pas la même finance. C'est pas la même chose.
C'est pas les mêmes besoins, surtout en termes de finances. Voilà. À Mayotte, on est beaucoup plus sur l'agriculture, enfin le besoin des
tontines,
l'agriculture ici.
Ouais. Ici, on est sur des relations tontines, exactement. Et ça, on peut le faire en finance islamique, c'est tout à fait envisageable. Vous avez aussi
des. Ah oui, la tontine, c'est possible.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. des fonds de
Moucharaka.
Ouais. Il y a des enjeux d'infra, il y a des enjeux d'agri. Et il y a des enjeux surtout de formalisation. J'étais surpris de savoir qu'il y avait beaucoup d'économies informelles. C'est quasiment que ça.
C'est quasiment que ça parce qu'il y a une immigration massive.
Exactement.
Il y en a qui vivent tout à fait sur l'économie parallèle.
Tout à fait. Donc là, on a estimé c'est à peu près 230 000 clients
Et là, si on prend 15% de la population, ça a peu, enfin, à peu près 150 000 clients. Donc ça ferait un total de l'ordre de 300 à 400 000 clients bancarisables.
230 000 à Mayotte.
Avec les Comoriens. Les Comoriens.
Ah, dans ce cas-là,
c'est pas, vous savez, c'est pas parce que quelqu'un est dans l'informel et que, bon, il est là, hein, lui fournir une carte de crédit, une carte de débit au demeurant, avec une tontine, c'est pas du tout flexible. Et donc, ça permet de formaliser. Et donc, on, a priori, les promoteurs du projet considèrent qu'il faudra à peu près 15 millions d'euros pour démarrer cette banque, et avec un certain nombre de contraintes, hein, c'est-à-dire qu'elle reste là-bas. Elle n'aura pas d'agence ni à Marseille, ni à Paris, ni nulle part. Elle ne s'occupe que des populations sur place, parce qu'elles sont plus réceptives à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils considèrent aussi qu'il y a un certain nombre de populations non musulmanes à La Réunion, pour des raisons familiales, des raisons d'amitié, des raisons sociales, qui seraient favorables à ouvrir un compte aussi dans la banque islamique. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est une banque digitale, assez peu de 4 ou 5 agences sur les deux îles, très très moderne, et surtout... En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est que les taux d'intérêt sur ces territoires sont supérieurs à ceux de la métropole. Et ça nourrit la vie chère. J'ai appris que l'indice des prix à la consommation, pour les prix des biens courants, était 70% plus élevé qu'en métropole, à cause des imports. C'est fou, hein ? Donc c'est plus pauvre et c'est plus cher. Donc l'idée pour eux, c'est de dire, bon, ben, on va rendre la banque moins chère. Au moins, la banque sera moins chère. Alors, pas forcément le fioul, pas forcément les céréales... ça s'appelle la Nestlé Crip Crops, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais plus cher, c'est importé, d'accord. Donc voilà, donc l'idée c'est d'approcher les différents parties prenantes, dont vous, pour présenter le dossier et voir si c'est faisable. Après, si c'est faisable, l'idée c'est d'avoir une non-objection, pas d'avoir le blanc-seing des institutions que vous représentez, mais en tout cas de dire, tiens, pourquoi pas, ça fait peut-être sens dans l'économie ESS, économie sociale et solidaire, d'accord. Ils vous en diront plus quand ils vont... Je ne suis pas leur propre porte-parole, je suis simplement leur conseiller. D'accord ? Intéressant, ouais. Bon, ça fait un peu...
L'entrée est faible.
L'entrée est faible, et puis surtout là, 95% de la population qui a des niveaux de vie qui souffrent un peu, ça fait sens de leur donner de la banque moins chère. Clairement. Et puis cette bancarisée sans trop souffrir.
Est-ce que vous...
Elle t'a pas levé la main, est-ce que je voulais poser une question
Fatima, mais je te laisse la parole.
Ah oui, tu en as déjà posé une. Parce que du coup, enfin, ou là, parce que je sais que vous allez poser des questions beaucoup plus techniques. Du coup, moi j'ai deux questions depuis le début. Alors, comment je vais le dire, sans vous choquer, mais en même temps, on est là
en direct
ça.
Live, sans...
quand on entend... Enfin, moi perso, non, mais je sais que dans la salle, ici, ou même... dans l'inconscient franco-français, quand on entend financement islamique, on entend financement du terrorisme.
Oui.
Donc comment on déconstruit cette question-là ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est aujourd'hui, avec tous les débats autour de la réorganisation, de l'organisation de l'islam de France en France, pas tout ce qu'on veut, on aborde systématiquement la question du halal.
Oui.
C'est quoi le lien, en gros, entre la gestion halal, pèlerinage et finance islamique, est-ce que c'est un lien ou pas du tout, c'est complètement déconnecté de ce que vous venez de nous raconter. Voilà, sur ces deux questions qui j'espère
d'accord.
ne vous choquent pas.
Non.
Moi, là j'ai ma casquette auditrice à l'IHEMR, donc j'ai le droit de poser toutes les questions. Que je ne vous aurais pas posé
dans le sujet.
Non mais que je ne vous aurais pas posé d'ailleurs lors des assises de l'islam.
Il fallait, parce qu'il n'y a pas de sujet. Alors, pour la petite histoire, juste pour raconter un peu ma vie, parce que c'est lié à la réponse à votre question. Moi, j'ai commencé en tant qu'analyste dans les agences de notation, donc moi, je les ai notés pendant 15 ans. Et mon premier job, signé mon contrat le 13 septembre 2001, deux jours après la catastrophe. Donc j'arrive chez Standard & Poor's et ils me disent « Ah, bah, tu vas t'occuper du Moyen-Orient, maintenant, tu as un new assignment, c'est banque islamique. » Je ne savais même pas que ça existait. « Et tu sais quoi ? Tu vas leur demander s'ils ont des comptes de terroristes. » Alors on l'a pas fait ça comme ça, on n'a pas demandé aux banques et Al-Raji, est-ce que vous avez des terroristes parmi vos clients? Non, on est passé par leur banque centrale. Les banques, comme n'importe quelle banque, elles sont régulées. La première chose qu'a fait la banque centrale d'Arabie Saoudite le lendemain du 11 septembre, c'est qu'ils ont déboulé dans les banques islamiques. La première chose qu'ils ont faite, ils ont déboulé chez Al-Raji, banque Al Jazeera, pour leur dire vous allez nous ouvrir tous les comptes, on veut tous les noms de tout le monde. Parce qu'ils avaient une petite idée assez rapidement du nom des gens qui avaient fait péter les avions dans les trucs. Ils ont dit on veut voir. On va voir s'ils étaient chez vous, leurs frères, leurs grand-mères, leurs cousines, leurs chats.
leurs chevaux, leurs chameaux, est-ce qu'ils ont un compte chez vous? Et en fait, après 3 années d'investigation, il y a eu quelques doutes sur la banque Al-Raji, hein, en Arabie Saoudite, qui ont été cités dans les papiers du renseignement, mais ils ont été assez rapidement clearés. Il n'y avait pas plus ni moins de comptes suspects dans les banques islamiques que dans les banques conventionnelles. C'est étonnant, hein. Parce que finalement, les gens qui veulent faire du mal à un État ou une société ou une population, il n'y a aucune raison. Non, ce n'est pas les clients normaux de la banque islamique. Les clients normaux de la banque islamique, c'est vous et moi, c'est n'importe qui, mais avec une conscience particulière. Donc, banque islamique et financement du terrorisme, non, parce qu'au-dessus, vous avez la case banque centrale, et les banques centrales, elles n'ont rien à fiche, que vous soyez charia compliant ou pas charia compliant. S'il y a une transaction douteuse qui passe par chez vous, bah, sauf si l'État lui-même est un État voyou. Soudan, des choses comme ça, quoi. Mais bon, ça, à partir du moment où la responsabilité régalienne est douteuse, forcément, les banques en dessous, elles le sont aussi. Hein. D'accord. Mais dans un pays à peu près bien géré, comme la Malaisie, non. L'Arabie Saoudite, non. Les Émirats, le Koweït, tout ça, il n'y a pas de souci. La Turquie, non plus. D'ailleurs, toutes les banques islamiques turques appartiennent à des étrangers. Sauf deux qui appartiennent à l'État, Ziraat, Katilin Bankazi et Vakif, Katilin Bantali. Ziraat, c'est agriculture, et Vakif, c'est le Waqf. Deuxième question sur le halal et la finance islamique. Oui. En principe, tout le business halal, que ce soit l'alimentation, la Mecque, les sacrifices, etc., si on avait une banque islamique en France, ou une fenêtre islamique d'une banque conventionnelle, tous ces business-là devraient ouvrir un compte chez nous. Tous, les associations culturelles, les mosquées, tout le monde. Parce que sinon, tout leur business devient non charrière. Vous mettez halal sur la devanture de votre business, bah vous devez avoir un compte halal, sinon la chaîne de valeur ne l'est pas. Alors, est-ce qu'ils le font? Non, parce qu'il n'y a pas de solution charia compliant. Donc là, ils se cachent derrière une fatwa de 1999 du Conseil européen de la fatwa qui dit principe de nécessité, daroura, d'accord, la daroura qui dit bah, si vous n'avez pas accès à la finance islamique, alors exceptionnellement, on vous autorise à faire du conventionnel, mais le jour où il y a une offre islamique compétitive qui s'offre à vous, alors vous devez switcher.
Compétitive.
Ah oui, parce que imaginez, un monopole. Une banque islamique, elle arrive, elle dit, bah, c'est ça, moi je double les prix. Vous n'avez pas le choix, vous venez chez moi. Ouais. Là, les commerçants vont aller voir un jurisconsulte.
Si elle double les prix, c'est pas charia compliant.
Non, elle peut le faire. C'est les contrats qui sont charia compliant, c'est pas le pricing. Donc elle va être obligée de s'aligner. Donc à la fin, même si elle essaye de faire jouer son statut de monopole, elle va être obligée, à cause de la pression de la concurrence, et surtout le principe de Daroura, hein, qui dit, enfin toi, elle est claire, elle dit, vous avez le droit jusqu'à ce qu'il y ait une offre, et cette offre doit être compétitive, acceptable.
Ils doivent purifier aussi leur flux.
Ils ne sont pas obligés.
Non. C'est-à-dire purifier comment?
C'est-à-dire que si vous déposez de l'argent sur un compte à terme, mettons un compte livré A, et que vous recevez 0,75% de rendement, ces 0,75%, vous devez les donner à Charities.
D'accord.
Non, vous êtes invité. Vous savez qu'en islam, je ne sais pas si vous savez tous, mais il y a 4 gradations dans le « je dois, je ne dois pas ». Halal, c'est top. D'accord. Il y a Mubah qui est autorisé et plutôt cool. Makruh, c'est pas interdit mais déconseillé. Haram, c'est non permis, c'est bon. D'accord. Donc il y a des gradations, c'est pas tout noir ou blanc.
Il y a même fitna.
Oula va. Oula. Là, vous allez dans le hardcore de la limite. La fitna, c'est la scission. C'est les deux points de vue divergents. Oula. Ouais, c'est des interstices. Bon, il y avait une autre question, je crois.
J'ai une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système bancaire qui repose sur les valeurs de finance islamique,
oui.
Mais qui ne soit pas, enfin, qui propose à ses clients musulmans du halal,
oui.
Et à ses clients non musulmans les mêmes valeurs, les mêmes dispositifs, mais sans les cibler. Pourquoi je dis ça? Parce que Quand on écoute votre exposé, c'est vendeur quand même. Pour quelqu'un qui cherche, sans être intermondialiste, une finance morale et éthique, c'est quand même un cadre qui est plutôt rassurant. Et...
C'est le principe de la loi Pacte, enfin, sur les objets sociaux d'une société, ouais. Avec.
Ce qui est moins rassurant, en fait. Moins lisible.
C'est tendance.
Alors, ça existe. Oui, il y a un fonds en Afrique du Sud qui s'appelle Oasis Capital,
C'est un fonds des gérants, ils ont les deux offres, ils ne sont pas musulmans du tout. Ils ont les deux offres, ils ont l'offre conventionnelle, l'offre islamique. Elle s'appelle Oasis Capital, c'est juste un signal. Ils ne mettent pas en avant la fatwa, c'est même pas siglé Sharia Compliant, mais si un client vient les voir en disant « ça me semble islamique, vous pouvez me montrer la fatwa », ils sortent la fatwa. Mais dans les contrats, il n'y a pas d'intérêt, voilà, ils investissent que
c'est
dans
le même fonds, strictement, c'est fondu.
Non, c'est pas fondu.
C'est
le même gérant avec deux.
C'est le même gérant avec deux.
Alors, on a même vu au Luxembourg, alors vous allez rigoler, on a vu au Luxembourg un master fund, donc c'est un fonds générique, qui a en dessous des compartiments, on appelle ça un feeder, donc il y a le master feeder, donc il y a en fonction des classes d'actifs. Vous avez marché monétaire, vous avez commodities, donc matières premières, vous avez immobilier. Et le compartiment immobilier, il est chargé à compliant. Parce que le client derrière, c'est un client koweïtien, donc c'est un investisseur koweïtien qui a demandé à acheter de l'immobilier chargé à compliant. Donc il n'y a que le feeder immobilier qui est chargé à tout le reste est haram au dernier degré. Mais celui-là, il est tout clean. Et il est géré différemment. Non.
Il est géré différemment, mais finalement, la clientèle est mixte.
Tout à fait. Alors, CF Fund Services, c'est une fiduciaire qui est rattachée à BDO, c'est un de mes clients, on bosse avec eux. Ils nous ont demandé de structurer un RIF, Reserve Alternative Investment Fund, un fonds d'investissement alternatif réservé à une classe d'actifs particulière. Et ça vient d'un client saoudien. Et ce client, il a vendu sa boîte de pharmacie générique. Il a gagné beaucoup de sous. Il s'est dit, je veux un véhicule luxembourgeois clean et Sharia compliant. Dans le prospectus du fonds, la régulation CSSF et tout, il n'y a aucune mention du fait que c'est juste moi qui dois le savoir. Vous me faites juste le truc clean. Alors, ce fonds-là, ce FIAR, pourrait être ouvert à Friends, Family and Co-Investors, à des tiers. C'est marqué nulle part que c'est islamique. On a juste une fatwa à un moment qu'on peut enlever ou remettre. Donc ça se fait. Hein.
Et pour pénétrer un marché comme le marché européen, qui semble difficile, c'est une solution.
Alors, soit, c'est la réponse à la question de votre ami qui est parti, soit on fait une petite banque privée qui fait essentiellement des métiers d'épargne. On reste au Luxembourg, il n'y aura pas d'agence. Et on va s'occuper de quelle clientèle? La clientèle très haut de gamme, comme vous, et la clientèle institutionnelle. Donc on va s'occuper des CS+, CS++, CS Xavier, quoi. Et les institutionnels. Voilà. Et ça, mais là, il n'y aura pas d'agence, pas de marketing, rien du tout. Vous allez avoir quelques pages dans Le Figaro, machin, hyper classe, machin, tout prout. Ça va être très très bien. Si vous voulez faire de la masse, je vous dis, il vous faut 25 à 30 milliards de fonds propres. Pour ça, à part un État, franchement, à part les Saouds, ils ne veulent pas le faire. Ça, c'est une raison pour se faire caillasser. Quoi. Alors après, il y a d'autres initiatives. On a parlé de crypto-monnaie, tout ça. Mais ça, c'est hors banque. Et puis c'est chez eux que ça se passe, donc ça ne nous regarde pas ici. Donc en France, ça va prendre du temps.
Hein. J'ai une autre question, parce que oui. Je profite, et après je vais reprendre la parole. C'est une question plus technique, oui. Qui m'est venue quand vous avez parlé de l'assurance.
Oui.
Ça, ça rejoint ce que vous avez François. Donc on fonctionne sur un système de prime, un système de don.
Oui.
Le principe du contentieux n'existe pas.
Le principe du contentieux, c'est-à-dire
le donateur, donc bénéficiaire de la couverture.
Ah ouais.
Ne peut pas se retourner contre son assureur.
Si. Parce que son don génère des droits. Dans le...
Est-ce que c'est pas un contournement? Parce que finalement, c'est un contrat masqué. Est-ce que c'est un vrai don?
Non, parce que non, ça, alors, on juge toujours la finance islamique à l'aune de son propre référentiel normatif. Mais en islam, il est parfaitement autorisé d'avoir un texte qui dit la chose suivante. Je vais donner à une institution, et parce que j'ai donné à cette institution, j'ai un certain nombre de droits en retour. Le waqf, la fondation, fonctionne comme ça. Par exemple, si je donne un waqf, c'est un tabarro aussi, pluriel tabarroat, je contribue à un waqf, une fondation, je ne suis pas actionnaire, mais j'ai un centre de droit. Par exemple, le droit d'utiliser les locaux. Si le waqf me dit, ah ben non, attends, pas de basket pour rentrer dans les locaux, vous pouvez les traîner en justice. Pareil, là, si vous n'êtes pas couvert en termes de sinistre, parce que le don vous donne un droit mutuel de couverture, si vous n'êtes pas couvert, vous les traînez en justice. Et vous aurez gain de cause.
J'y ai pensé tout à l'heure quand on a parlé de Mayotte. Quelle est la place du microcrédit dans la... la finance islamique. Je pense que c'est islamico-compatible.
C'est excellent. Question. C'était, vous savez, dans les 80% qu'on a vu, on a intégré les institutions de microfinance. Ouais. Alors, on a fait le décompte des institutions de microfinance, mais uniquement en Afrique et en Asie. Hein. Ils sont charia compliant. On en a 98. Ça ne pèse pas beaucoup. Moins de 2 milliards de total de bilan en euros. C'est ridiculement petit. Alors que les besoins sont gigantesques. Alors pour l'instant, la finance islamique, c'est pas trop bien faire de la microfinance charia compliant, mais rappelez-vous, hein, elle est quand même née dans les années 60 à deux endroits différents. Elle est née en Haute-Égypte, Mitram Saving Bank de... j'ai oublié son nom, peu importe, il me reviendra. Et puis ensuite, il y a eu Younous. Il y a eu Younous. Et lui, Younous, c'est prix Nobel, de quoi? De la paix ou des... prix Nobel de la...
De la paix.
Et il a eu ça sur le microcrédit. Et le microcrédit qu'il déployait au départ au Pakistan et en Inde, c'était du microcrédit charia compliant, on l'oublie. Ah,
c'était voilà.
Ouais, sa première cliente était une cliente musulmane.
Ah oui, d'accord. Ah bon,
ouais, Younous. Il a une, un véhicule de propagande qui s'appelle Younous and You. Si vous voulez aller voir, il parle de tout ça, de la première cliente. Et tout. Bah, les taux étaient délirants. Hein.
Mais,
20-30. Oui.
J'ai microcrédit.
C'est le principe du microcrédit. Il ne l'a pas présenté comme ça. Je crois qu'elle avait besoin d'un début de cheptel, une ou deux bestioles, là, pour commencer un troupeau.
C'est pas aussi. Enfin, la banque mutualiste, micro-mutualiste est beaucoup plus éthique.
Tout à fait. Tout à fait.
Voilà. Est-ce que je peux poser une toute petite question, cher Anouar? Tu as évoqué le CSO tout à l'heure, Conseil supérieur des oulémas. Ça concerne les quatre écoles juridiques sunnites ou c'est spécifique à chaque
Maroc,
école?
Ils sont 100% malikites.
D'accord.
Donc, le Conseil supérieur des oulémas est 100% malikite. Ah oui,
il y a deux modèles.
Il y a deux modèles. Le modèle du Golfe où les conseils de jurisconsultes sont décentralisés, c'est-à-dire chaque institution a son conseil. Nous, chez Banque of Tokyo, on avait notre conseil. Bon, c'était des rockstars, hein, Cheikh Nizam Yarkoubi, Sultan Al-Ulama et Dr El-Ghari. C'est à peu près la même chose dans le monde de l'Islamic Finance que Bon Jovi ou Metallica dans le monde du rock. Quoi. C'est des rockstars. Vous rentrez, on est tous comme ça, on est là, on les accompagne, on nous offre du thé, tout ça. Et les Japonais encore plus. Ça, c'est le golf. D'accord ? Au Maroc, on a un système centralisé, c'est-à-dire que le conseil des jurisconsultes, il relève du ministère des Habous. Alors, pour ceux qui connaissent le Maroc, le ministère des Habous, c'est le ministère des Affaires religieuses, qui relève de l'autorité directe du chef de l'État. Sa Majesté Mohamed VI, lui-même, ça passe même pas par le Premier ministre. Donc vous avez le gouvernement, le ministère des Habous, le gouvernement il relève du premier ministre, nommé par le roi et proposé par l'Assemblée nationale, et le ministère des Habous relève directement du roi qui est commandeur des croyants. Rien que ça. Donc forcément, les affaires religieuses, c'est lui. Donc le CSO, c'est 13 membres, et ces 13 membres sont tous malikites. En Malaisie, le Conseil supérieur des oulémas de chez eux, il relève de la Banque centrale. Donc il est dans le même bâtiment que Banque Negara Malaysia.
Et il y a une école ?
Shafi'it chez eux. Ici c'est Shafi'it. Le madhab, l'école de pensée Shafi'it de Ibn Shafi'i. Nous c'est malikite. Maroc, Algérie, Tunisie, c'est malikite. Libye aussi, un peu moins l'Égypte. Voilà. Todoben ? Khalas ?
Qu'est-ce qu'ils deviennent nos étudiants quand
ils vont au master? Ah oui, on a plein de
questions. Kauter, tu vas pouvoir.
Ah, aussi,
ouais, on a trois tiers. Hein. On a un tiers qui s'expatrie. Donc, par exemple, quand vous avez des étudiants d'Afrique de l'Ouest, ils rentrent en Afrique de l'Ouest. Ou il y en a un, donc ils s'expatrient. Hein. Ils vont dans les institutions de la Banque Islamique de Développement, Islamic Financial Services Board, l'ILM, les banques globales, un peu partout dans le monde. Un tiers qui fait de la finance islamique dans notre zone, Suisse, Royaume-Uni, Belgique, machin. Et puis un tiers qui se dit, ouais, c'était sympa d'avoir fait le master, mais franchement, moi, je veux rester en France, à Paris, il n'y a rien, j'attends que ça arrive, et puis je continue mon petit bonhomme de chemin. Je fais mon boulot, voire je change de boulot, parce qu'en fait, ils font valoir Dauphine davantage que finance islamique. Regardez, c'est Dauphine! Alors là, tout de suite, la carrière, elle prend un sacré coup. Donc c'est vraiment trois tiers. On a très peu qui font des thèses, alors que je crois que c'était HDR maintenant. Non. Pas encore ?
Pas encore. Mais il y en a qui font des thèses.
Mais pas avec toi. Ouais.
Quand est-ce que tu as HDR ? Il y en a trois qui ont soutenu.
Parce que le jour où Kauter sera HDR, je pense que ça va déferler. Hein.
Ouais, c'est pour ça que je...
piano. Parce que chaque année, on a sur 25, là, cette année, on en a moins de 20, mais l'année prochaine, on en aura plus. En moyenne, on a 25. Sur 25, on a chaque année 3-4 étudiants qui veulent faire un PhD, une thèse en finance. Ouais. Et avec Kauter,
Une question aussi un peu pratico-pratique. Oui. Quid des présidents de mosquées qui n'arrivent pas à boucler le financement des mosquées, ils vont où? Ils errent où? Parce que moi, j'en ai un paquet, là.
Il y a deux solutions. Ils peuvent faire des crédits, mais ils ne seront pas charrier compliant. Mais après, pour les rembourser, c'est compliqué. Ou il faut attendre la constitution d'un WARF français. Un WARF national. Une fondation nationale, mais pas une fondation à la Raleigh Bencher qui pense, qui réfléchit, qui agit, qui influence. Machin, on l'a vu hier, il est super. J'adore Raleigh, c'est un ami de pour. Alors on en pense qu'on veut quand on est musulman. Il y a les pour, les contre, moi je suis dans les pour. Moi, j'ai pas de problème pour le dire. Mais lui, il fait pas de finance. Il fait pas de finance. Donc l'idée, c'est de dire on va faire un WARF, donc une fondation, mais qui fait que du financement. Faudrait qu'on y arrive. Alors qui va abonder ce WARF, cette fondation? C'est les musulmans eux-mêmes, en direct live, par le biais d'une fintech, téléphone, les associations culturelles et cultuelles qui sont en excédent de trésorerie. On fait remonter une partie de ça au niveau d'un WARF centralisé, et ce WARF centralisé ensuite.
Ça n'existe pas, des associations culturelles qui ont des excédents de trésorerie.
On en reparle quand vous...
Si, enfin, je suis pas d'accord,
il y en a. Alors ça, c'est ceux qui...
Il y en a. Ceux qui font appel aux dons pour construire un mosquée, regardent la mosquée d'Aulnay, c'est un peu ce qu'il a fait. Ouais.
Mais ce ne sera pas spontané.
Non, mais lui, c'est tracé, il y a des prélèvements sur compte bancaire.
Oui, je parle de tracé. Si, on a trésorerie.
Il collecte au billet de banque pour 50 euros.
Il y a des mosquées, des associations culturelles qui sont en excédent de financement, en excédent de trésorerie, d'autres qui sont en déficit. L'idée, c'est d'organiser une forme de mutualisation. Mais cette mutualisation ne sera pas spontanée. Vous n'allez pas avoir une mosquée à Strasbourg ou à Paris ou à autre qui va dire « Ah ouais, d'accord, moi je vais donner un petit peu à Vesoul ou à Roubaix, ça ne va pas le faire. » Donc il faut des incitations. Et ces incitations, elles sont de plein de nature. Alors, on peut penser à plein de nature.
Et donc du coup, ce que propose El Karoui, ça ne vous branche pas plus que ça?
C'est une option, c'est pas la seule. Après, on verra si on continue notre travail de recherche. Et un travail de recherche qui pourrait voir le jour là-dessus, c'est exactement la question qui est posée. C'est comment organiser la mutualisation de financement de l'islam de France directement chez les fidèles, donc aller taper l'argent à la source, ou alors via les associations culturelles et cultuelles avec des formes d'incitation qui peuvent être soft ou hard.
Et pourquoi pas les deux?
Bien sûr que les deux. Les trois, même. Des contrôles. Régulier, constant, invasif.
Vous avez été un peu auditionné par les équipes du PR, du président de la République sur ces questions?
Bien sûr, ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale, il n'y a pas longtemps le Sénat. On attend simplement de savoir si la recherche va nous être attribuée ou pas, c'est tout. Si elle nous est attribuée, on va travailler dessus. Si elle ne nous est pas attribuée... Ah, ça ne sort pas d'ici, hein, on est d'accord.
Oui.
Tu as dit que c'était... Donc si on est mandaté pour le faire, on le fera avec plaisir. Si ce n'est pas nous, bonne chance à l'équipe. Mais l'objectif, c'est de converger vers ça. Ouais.
Et les fonds qui sont arrivés, vous parlez beaucoup de Maroc, alors qu'ils sont arrivés pour financer Mantes-la-Jolie, Saint-Étienne, est-ce qu'ils ont été ciblés finances islamiques?
Du tout.
Ah ouais?
Du tout, rien à voir.
Et le président de mosquée n'a pas dit, ouais, ça c'est de l'argent.
Non.
Qu'est-ce que c'est un contrôle invasif? Je voudrais que vous précisiez quand même, parce qu'on est sur ce sujet-là, en termes d'organisation.
Vous savez qu'il y a un certain nombre d'associations culturelles et cultuelles qui sont dans l'informel le plus.
Les salles de prière.
Donc, l'idée, c'est d'annoncer très simplement, soit on formalise. Et la contribution exigée, ou en tout cas incitée, sera de tel ordre, soit on ne formalise pas, soit on a les contrôles. Les contrôles, ça va être de ramasser un certain nombre de fonds. Alors, je ne sais pas comment on peut habiller ça juridiquement, c'est pour ça qu'on a un juriste avec nous, voir quelles sont les formes d'incitation coercitives. Alors, moi, je suis plus davantage favorable aux incitations non coercitives, c'est-à-dire de fournir des services en contrepartie de la collecte. Par exemple, les petites associations 1901 ou 1905 qui n'ont pas les moyens de faire des audits, qui n'ont pas les moyens de tenir une comptabilité, qui n'ont pas les moyens d'avoir une forme de gouvernance, c'est la fondation qui met ça à leur service. Donc, des auditeurs, des gérants, des directions administratives et financières, une trésorerie en pool auprès d'une banque qui a à peu près charia compliant, mutualiste, crédit agricole.
Ça veut dire quoi à peu près?
Daroura, hein, la FATO 99, une banque mutuelle un peu green, quoi. Crédit agricole, c'est très bien. Ils sont bien, ces gens-là.
Voilà.
Donc l'idée, c'est de dire, voilà, et de fournir des services en contrepartie de ça, le salariat des imams. Vous nous donnez un peu de votre excédente trésorerie, on vous salarie votre imam, on vous le forme, on nettoie un petit peu tout le bazar, on vous met des choses au carré. La comptabilité, l'audit, la gouvernance et tout le bazar. Donc un service en contrepartie bah, d'une collecte. Et en fonction de... Alors après, avec ça, la fondation va investir dans des immeubles de rapport.
C'est qui la fondation ?
Alors justement,
La fondation
le concept
islamique, par exemple, c'est... de France, c'est
on
pas
pourrait
ça.
L'utiliser.
El Karoui, c'est pas complètement ça. Donc vous, c'est une troisième hypothèse.
Non, les deux.
Vous faites un combiné des deux.
Faudra faire asseoir ensemble tous ces gens-là, El Karoui, Raleb, les autres, CFCM.
Mmh. Ouais, bon chance, comme on dit chez moi, bon chance.
Ouais, bon chance. Bon chance.
Notre travail.
Vous êtes un optimiste.
C'est pas idéologique.
Non, il faut scinder les deux choses. Nous, si on
va... nous convaincre là, parce que là c'est notre sujet.
Si on fait ça, nous on va écrire un modèle. Ce modèle, il va avoir plusieurs scénarios. Il y a un scénario A, un scénario B, un scénario C, machin. Donc, bon. Après, comment vous l'exécutez, selon quelles contraintes et avec quels interlocuteurs, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est votre boulot, c'est pas le nôtre. Hein. On est des chercheurs, on écrit des modèles, on fabrique des modèles. On va essayer de quantifier combien d'argent déjà.
Mais rien que ça, comment vous allez faire pour le
modifier ? On a des modèles, bien sûr qu'on a des modèles, c'est pas de problème pour ça. On va faire des extrapolations en fonction du territoire, pour la fréquentation. Alors s'ils veulent pas nous répondre, s'ils veulent pas.
Moi j'aime bien être territoire d'expérience.
Avec plaisir.
Vraiment.
Ouais, on a prévu 130 entretiens. Alors après les entretiens, on va extrapoler. Bien sûr qu'on a des modèles, c'est pas un problème.
Et sur
des littératives, des algorithmes.
Carrière, merci.
Alors, ce ne sera pas une quantification à l'euro près. Hein. Oui. Il va y avoir une marge de.
Et vous direz tout ? Vous direz aussi ce qu'il y a à côté ? Vous le direz ? Enfin, vous direz, vous jouerez le jeu.
Ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de l'intérieur, et on va voir la conclusion, ça va être que ce qui vient de l'intérieur est un multiple de ce qui vient de l'extérieur. Le financement externe de l'islam de France est un mythe.
Il y a trois francs six sous.
Oui. Le pognon, il est là et il vient des fidèles. Alors après, ça c'est pour quantifier le pool. Après, ça c'est le stock annuel. Après, les flux. Où est-ce que ça va ? Formel, informel. Ce qui est formalisé, comment c'est formalisé ? Par qui ? Association 1901, association 1905. Ce qui est informel, ça va où ? Comment c'est utilisé ? C'est là qu'il va falloir chercher. Là aussi, on a des modèles. Des questionnaires, on a une personne qui est spécialiste de l'orga, Kautar, spécialiste d'économie d'entreprise, elle va très vite vous dire si c'est là ou là. Hein. Il suffit de regarder les comptes. Vous voyez des fidèles qui arrivent, vous voyez en moyenne ce qu'ils donnent. Vous voyez un compte, il y a 100 balles. De l'autre côté, il y a 1500. Ils sont où les 1400 ?
Vous irez voir la villa du président de la mosquée sur la
côte de Mais bien sûr.
C'est pour ça que si vous donnez une recherche comme ça, les gens qui ne connaissent pas trop, vous allez vous viander. C'est évident, vous avez passé à côté du
truc. On a déjà mis deux étudiants, enfin deux années de suite, à travailler sur ce sujet pour explorer un petit peu. Et voilà, on a des retours, on a des résultats, on a pu collecter certains nombres.
Non mais il faut raconter ça à Macron là. C'est maintenant qu'il faut parler de ça.
Moi, je parle à personne. Moi, on me donne je suis un autiste. On me donne un ordre, j'exécute. Tant qu'on ne va pas donner l'ordre, j'exécute pas. Point barre.
Parce que sur le muslim business, chapeau si vous y arrivez juste sur le halal. Avec la main assez forte des mosquées d'Evry, Paris et Lyon. Enfin, chapeau. Si vous arrivez à nous donner quand même...
Vous allez dans la blacklist, hein.
Non mais en même temps je pense qu'il y a on a en même temps pour proposer pour positiver quand même votre point de vue, on est quand même, je trouve, par rapport à il y a deux ans, on est quand même sur une dynamique où on a effectivement une jeune génération que vous représentez vous aussi qui a la volonté justement de rendre transparent ces flux financiers, ce financement, le rendre moderne, digital, transparent, clair, avec une culture à l'européenne, une culture à la française. Donc je pense qu'il y a cette fenêtre.
Et les anciens, ils comprennent pas que c'est leur intérêt.
Et les anciens, ils vont mettre du temps parce qu'il faut qu'ils fassent le deuil de tout ça.
On l'a vu aux assises, vous, là, on l'a vu, ils comprennent pas quand on leur raconte ça. Ils disent
c'est violent.
Mon truc, ma chasse gardée.
Mais c'est violent, c'est super violent. Donc, chapeau.
Non, mais on va essayer de quantifier. Alors, comme tout travail de recherche, on va mettre les caveats au départ, là, ça repose sur un certain nombre de modèles, d'extrapolations, de machin, de trucs, voilà, et de monographies. C'est pour ça qu'il faut réellement aller taper là où on aura de l'info. Il y a des gens qui vont résister, mais on ne parle pas des gens qui vont nous ouvrir la totale. Et on en a déjà.
Les quadras, ils vont vous ouvrir par la génération de...
Je vais citer personne, ouais. Mais on a été invité à Bordeaux.
Ah, bah, c'est normal.
Mais qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, je vais vous parler de moi, et je vais vous parler d'un certain nombre de mes collègues, parce que je sais. D'accord, dis-nous, on va les vérifier après, et on va essayer de croiser les infos comme ça, c'est comme ça que ça va fonctionner. Hein. Après, on fera la liste des bleus-blancs, quoi. Ceux qui jouent le jeu, ceux qui jouent pas le jeu.
Ah, mais de toute façon, au final, il y aura pas d'alternative.
Mais bien sûr, ça va
quand même. C'est une évidence.
Non, mais pour les constructeurs, pour l'ordre public. Moi, je parle même pas de Alain, de Fatima. Moi, je parle des constructions de mosquées. Je pense que dans un sens d'ordre public, il faut, je pense, avant de... Enfin, moi, mon avis, c'est d'avant de donner des agréments ou d'enregistrer des associations cultuelles sur un territoire. Il faut que le préfet il ait une vision, enfin, il faut qu'il ait votre expertise. Il faut arrêter d'ouvrir et de laisser des chantiers en plan et qu'on soit tous en otage au niveau politique de tout ça. Enfin, je pense que. Parce que tout le monde râle, mais même un maire FN, il veut sa mosquée. Hein. Il a deux doigts de caricaturer. Et s'il est dans un territoire où il y a une communauté et des musulmans qui pratiquent un peu, eh ben, il fera l'hypocrite et il accompagnera, il fera. Parce que voilà, je dis ça parce qu'on a un an des élections municipales et ça se cristallise maintenant.
Il y a
des trucs sortir,
il y a ça, le salarié des imams, la formation des imams, les carrés musulmans dans les cimetières, et enfin la prise en charge de l'âge, du grand âge. Ce sont les cinq sujets clés de tout ça.
Et là, le grand âge, ça c'est encore autre chose qui touche moi à l'ordre religieux dans ce sens.
C'est plus social.
C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, le fait que j'évoque ces questions. On a dit de moi en tant qu'élu chargé des cultes que je m'engageais, que j'organisais une fitna sur la ville. C'est pour ça que je vous le dis.
Quelle rhétorique dangereuse.
Ah oui,
il ne faut pas utiliser des mots comme ça parce que c'est des mots qui ont plus de 1500 ans, c'est compliqué.
Voilà. Mais non, mais c'est pour ça que vous disiez halal, haram et on est arrivé au mot fitna sur un territoire.
Ah oui, donc on est au-delà.
On est arrivé à ça.
Ben, rappelez-moi la dernière fois.
Ah, bah oui, je vais prendre votre reportage. Vous
êtes le meilleur ami. 06.
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge.
Non, mais merci.